Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode en compagnie cette semaine du coach de vie, du gourou de l'alimentation, du... je sais pas quel...
Rien de tout ça.
Rien de tout ça. Maxime Deneau, bonjour Maxime.
Bonjour Pascal, ça me fait plaisir d'être là cette semaine.
Ben merci de nous rejoindre. Deuxième fois à Coram Deo, deux fois en si peu de temps. Donc la dernière fois, on a parlé du nouvel âge. Et souvent, le nouvel âge vient avec toutes sortes de préoccupations au niveau de la santé, du bien-être, de l'alimentation, qui est une bonne chose, mais qui peut être abordée assez souvent de fois d'une mauvaise façon. Par dans toutes sortes de milieux, et le milieu chrétien y échappe pas. Et donc, on veut aujourd'hui s'intéresser à la question de l'alimentation et le jeûne. La parole de Dieu nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai intitulé cet épisode « Manger et jeûner pour la gloire de Dieu ». On va parler dans un premier temps d'alimentation, d'une alimentation à la gloire de Dieu, mais aussi, en deuxième partie, du jeûne, comment on pratique le jeûne et pourquoi on devrait pratiquer le jeûne. Maxime, peut-être que tu veux donner tes lettres de créance. Je t'ai dit coach de vie, je faisais un peu une petite blague, mais pourquoi est-ce que tu serais habilité à nous parler de ces questions-là?
Dans le cadre de mes études... À savoir que je suis kinésiologue de formation, j'ai étudié comme kinésiologue, en fait travaillé 5 ans après avoir gradué. Puis je me suis redirigé en sciences infirmières pour devenir infirmier. Alors j'ai toujours eu un intérêt particulier sur, en fait en lien avec l'alimentation, à savoir quel impact l'alimentation a sur la santé. Alors c'est un petit peu ce que je viens partager aujourd'hui à l'émission.
Bon, ben c'est parfait. Et puis, c'est en discutant avec toi, d'abord en voyant que dans nos agapes et dans nos repas fraternels, c'est pas juste à l'église, quand on te reçoit, on t'invite, quand les gens apportent leur nourriture, t'amènes toujours des trucs santé, grano. Donc, j'ai dit, ben Maxime, il serait le bon candidat pour faire une émission sur cette question-là. Bon, on a eu des échanges sur différentes questions. Et je voulais aborder la question du jeûne. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais marier ça, jeûne et alimentation. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous parler du livre recommandé par notre sponsor cette semaine, qui est le livre qui s'affiche à l'écran. La vie est plus que la nourriture de Elise Fitzpatrick. C'est une traduction qui nous parle du problème souvent, du rapport problématique qu'on peut avoir avec la nourriture, entre autres avec la mauvaise nourriture qui est pas bonne ni pour notre corps ni pour notre âme, et comment est-ce qu'on peut être délivré de mauvaises habitudes alimentaires qui sont plus néfastes parfois qu'on peut l'imaginer. C'est pas juste de nous faire prendre du poids, ça met aussi des poids sur notre âme. Alors, on va parler de cela aujourd'hui, mais vous trouverez dans la description de cette émission un lien pour pouvoir vous procurer ce livre si ça vous intéresse. Et c'est une façon aussi de soutenir notre travail, en soutenant notre sponsor. Mais vous pouvez nous sponsoriser directement parce que, bon, on nous sponsorise là, mais c'est à coup de screening. Non, je plaisante. Merci à Publication Chrétienne pour votre générosité. Mais si le cœur vous en dit, chers auditeurs, d'être généreux aussi. Vous savez que la radio CFOI et que notre travail est soutenu par les auditeurs. On n'a aucun revenu publicitaire quelconque pour... nos émissions, et pour continuer la mission, on dépend de vos dons, de votre générosité. Alors, merci de nous aider à cet effet-là. Alors, mon cher Maxime, par où commencer? Comment s'attaquer à cette question-là? Regarder un peu au niveau des attitudes qu'on peut retrouver face à l'alimentation. dans le monde et dans l'Église. J'ai l'impression qu'on est un petit peu comme soit des gens très préoccupés, soit des gens pas du tout préoccupés. Il n'y a comme pas beaucoup de entre les deux. Ben, il doit en avoir entre les deux, je présume, là, mais quel genre d'attitude tu remarques dans ta pratique? Comme infirmier et dans je disais, tu étais coach de vie, mais tu as été un peu comme entraîneur, non, aussi?
Dans le temps, j'ai travaillé comme entraîneur et kinésiologue pendant au total 10 années. Fait que oui, il y avait l'activité physique, mais beaucoup de recommandations en matière de santé.
Voilà, donc tu as l'occasion un peu de discuter de diète avec... avec les gens et les gens qui sont pas forcément dans les milieux chrétiens. Et je ne sais pas si depuis que t'es croyant, tu constates à peu près les mêmes genres d'attitudes qu'on voit dans le monde, dans l'Église, vis-à-vis de l'alimentation. Qu'est-ce que tu remarques?
Je veux dire, il y a des points qui sont similaires, des points qui sont divergents. Ce que je vois qui est assez similaire, en fait, c'est en termes de régime que les gens mangent. Un régime méditerranéen, végétarien, qu'il mange de la viande, qu'il mange un régime cétogène, on le voit aussi bien dans l'Église que dans le monde. Ce que je perçois quand même qui me semble différent, parfois dans le monde, on semble trop se soucier de l'alimentation, peut-être trop se soucier du corps. Est-ce que le corps devient une idole? Je pense aux gens qui, comme moi, j'étais végétalien pendant 5 années de suite avant d'être croyant. Et là, c'était comme pour la cause, l'environnement, le côté moral avec les animaux. Donc, je me souciais beaucoup trop de l'aspect de mon alimentation et de mon corps à ce moment-là. Mais tandis que dans l'Église, ce que je peux voir aussi qui est différent, c'est que par moments, on s'en soucie trop peu de la santé puis du corps, comme si on donnait préséance à l'esprit. Donc, le corps devenait secondaire, puis un péché qu'on voit énormément dans le monde, comme dans l'Église, c'est la gloutonnerie. Puis on le tolère énormément aussi, j'ai l'impression, dans l'Église. Mais je pense que c'est important de garder en tête que ce que l'on mange a un impact direct sur notre santé physique, notre santé mentale et spirituelle. Donc, il faudrait pas négliger ce que l'on mange. Ça pourrait nous aider là, dans notre vie de piété, notre vie de prière, ce serait important de garder ça en tête.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis, que l'emphase qu'on met sur le côté spirituel, la rédemption, et puis le fait que ce corps-là va mourir, donc on adopte un peu une attitude d'indifférence. On vit pour l'après, et puis ça peut faire que pour maintenant, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bon, je ne dirais pas que c'est généralisé, que c'est tous les chrétiens, mais en se penchant sur la question, on réalise qu'il y a plus de connexion entre l'alimentation et puis la santé spirituelle. On pourrait y venir dans un deuxième temps. L'Écriture n'est pas muette hein, sur la question de l'alimentation. Tu as soulevé, on parle beaucoup de la santé, mais tu as soulevé aussi la question de la moralité. Et c'est vrai que chez ceux qui sont très, très préoccupés, soit que c'est pour des raisons de santé, santé, bien-être, on ne veut pas manger n'importe quoi, on veut manger bio, on veut manger des aliments qui soient sains, qui aient un bon apport. Mais il y a aussi une question morale qu'on retrouve de plus en plus là, dans les mouvements des droits des animaux, où ça serait un problème moral de manger des animaux. Et en partant, l'Écriture a quelque chose à dire sur cette question-là qui est très claire. On respecte la conscience des gens qui sont véganes. On ne veut pas dire que les gens sont obligés de manger des animaux, mais ce n'est certainement pas un péché de le faire. Ce n'est certainement pas un péché non seulement veux dire de manger les animaux eux-mêmes, mais encore moins aussi d'utiliser les produits dérivés des animaux, que ce soit des œufs ou du miel. Parce que pour certains, ça va jusque-là. C'est que si on consomme ce qui est de l'animal, ce qui est produit par l'animal ou l'animal lui-même, c'est une agression contre une autre espèce. C'est de l'abus des espèces et de l'espécisme. Et puis ça, c'est un péché pour plusieurs. mais on ne peut pas appeler péché ce que la Bible autorise, ce que Dieu déclare, et c'est Dieu lui-même, et en particulier après le déluge, qui a donné le règne animal à l'homme pour sa nourriture. Ça ne veut pas dire qu'on doit abuser des animaux. Il y a une façon éthique d'utiliser les animaux. Donc la préoccupation morale, c'est important de le dire et de le dire à la lumière de la parole de Dieu, de ne pas lier la conscience par la loi des hommes. Et c'est un nouveau pharisianisme, en quelque sorte, le véganisme qui accuse les gens, qui les culpabilise. Et est-ce que tu vois, tu as vu beaucoup de gens comme ça qui sont un peu captifs de ces doctrines-là, qui ne reposent pas sur la vérité, mais qui reposent sur une compréhension erronée du rapport entre l'homme et la nature et le monde animal? Est-ce que tu as eu l'occasion de constater des gens qui sont un peu comme, asservis à ce faux enseignement?
Je l'ai moi-même été pendant 5 ans, comme je l'ai nommé tantôt. Donc, on met tout à égalité. Donc, l'homme n'est pas au-dessus de la nature, des plantes ou des animaux. Donc, il faut vraiment considérer là, les animaux comme étant aussi importants que soi. Puis, étant donné que ce n'est pas biblique, ben, c'est super bien accepté dans le monde. Mais oui, ça devient une obsession où il faut surtout pas là, dévier de ce qui serait moral, comme tu as nommé. Je l'ai pas. Je le vois, je te dirais, moins aujourd'hui dans l'Église, étant donné que je suis entouré de chrétiens. Mais c'est quelque chose qui était quand même très, très fort là, à l'époque, là, où les gens autour de moi qui étaient végétaliens.
Ouais.
C'était comme une religion, le végétalisme.
Ouais, ben c'est effectivement, c'est il y a les caractéristiques un peu dogmatique là, de la religion, mais qui ne repose pas sur une révélation. Comment est-ce que l'Écriture, dans ton cheminement, est venue éclairer ta compréhension de la question de la nourriture, de l'alimentation? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en devenant chrétien?
Ça s'est fait spontanément, je te dirais, avant même de me lancer tellement dans la parole de Dieu, puis de chercher à lire des textes ou des versets bibliques qui expliquaient ça. Au moment de la conversion, c'était comme naturel de recommencer à manger un petit peu plus de saumon, des œufs. Je te dirais, ça s'est fait tout seul. Je sais qu'il y a un verset en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 25, là, qui parle de manger de tout, mais on le prend souvent hors contexte, puis on dit aux gens, mais vous pouvez manger de tout. Tout ce que vous voulez. On encourage comme la gloutonnerie avec ce passage-là.
Je me rappelle
que Paul, dans ce passage-là, parle des animaux qui sont sacrifiés aux idoles. Donc, de ne pas en tenir compte parce qu'on sait que ce qui est créé de Dieu est pur. Mais personnellement, je n'ai pas eu à me lancer dans des textes bibliques ou dans la révélation spéciale de Dieu pour changer mon alimentation. Ça s'est fait naturellement. Il y avait moins de... La résistance est tombée. J'étais plus à l'aise de manger de la nourriture une fois chrétien. De manger des animaux, excusez-moi, une fois chrétien.
Oui. Ben, c'est ça. C'est sûr que de passer par la conversion, c'est aussi un renouvellement de l'intelligence où on est affranchi des fausses doctrines. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être végétarien ou même végétalien, il faut pas entretenir une fausse compréhension morale des questions qui sont liées à la nourriture. Le texte aussi auquel tu réfères, où il recommande de manger de tout, c'est dans le contexte des viandes sacrifiées aux idoles. C'était une autre préoccupation morale qu'on n'a pas vraiment dans notre contexte moderne. On peut faire une transposition pour dire que la nourriture comporte des enjeux de conscience, autant dans sa fabrication, comment est-ce qu'on produit cette nourriture, la quantité qu'on mange, ainsi de suite. Et nos habitudes alimentaires, on doit les réformer, si je puis dire, mais aussi pas forcément les imposer aux autres. Et puis ça, c'est une tendance. Hein, quand on a des convictions, on veut que tout le monde les ait. L'apôtre Paul, dans ces passages-là, où il y a des divergences importantes sur l'alimentation, il incite à respecter la conscience des autres, à aller jusqu'à parfois se priver de certains aliments qui pourraient scandaliser une autre personne, de ne pas faire par exprès. Je me souviens quand je travaillais comme aumônier à la prison, j'avais une collègue qui était moniale bouddhiste, donc qui était végétarienne. Lorsque il arrivait que je devais, je savais d'avance là, que j'allais, par exemple, dîner avec elle, ben, je ne faisais pas exprès de dire « tiens, je vais m'amener de la viande ». J'usais un peu d'égard vis-à-vis de sa conscience. Je pense que, bon, c'est Paul en parle par rapport à ceux qui sont dans la foi, mais même il fait une extension de ce principe de ne pas être en scandale aux Juifs. Donc, l'Église doit avoir un peu un respect pour la conscience des autres. Donc, on a affirmé que le véganisme ne peut pas s'imposer comme parole de Dieu, mais il ne faut pas inversement que les chrétiens fassent exprès de mépriser les véganes et aient une espèce d'attitude désinvolte qui ne respecte pas la conscience des uns et des autres et puis qui peut être un peu inflexible ou arrogante dans sa façon d'articuler sa liberté. Mais donc, on a une liberté que la parole de Dieu nous donne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu lié à l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres, avant qu'on parle des enjeux spirituels liés à la nourriture, est-ce qu'il y a d'autres éléments concernant notre rapport à la nourriture et à l'éclairage que l'Écriture apporte que tu aimerais discuter?
Je pense qu'il y a un élément où Dieu nous pousse à user de sagesse, à savoir quoi manger. Évidemment, il y a la doctrine de la liberté chrétienne qui nous permet de faire des choix, mais je pense qu'il faut faire la distinction entre une pomme de terre qu'on va cueillir dans un champ, puis des croustilles ou des chips. Il y a une différence à faire entre manger des fruits et des légumes et boire un jus de fruits ou des boissons gazeuses. Donc, je pense que c'est là qu'il faut user de discernement puis de voir, mais Dieu met à notre disposition certaines choses que l'on peut manger. Mais qu'est-ce que l'homme fait avec ces choses-là? De quelle manière les aliments sont transformés? Et est-ce que ces aliments-là sont toujours aussi bons une fois transformés? La réponse, c'est très, très souvent non. Donc, faut juste user de discernement à ce niveau-là aussi. Je pense que c'est important.
OK. Alors, je vais te poser la question directe. Franchement, je veux une réponse sans corne et sans dents. Un chrétien peut-il manger des chips en toute bonne conscience, Maxime?
Définitivement.
Juste pas trop. Faut pas qu'il finisse le sac.
Exactement, je ne mangerai pas un sac tous les soirs, mais on peut certainement manger des chips de temps en temps en petite quantité. Faut modérer. Je pense que ça prend un équilibre dans tout ça.
OK. Ben parce que voilà, il y a des enjeux. On connaît bien les enjeux de santé. Les agences de santé publique nous en parlent. Les autorités nous donnent même un guide alimentaire qui nous fait des recommandations. Donc, quelles sont, c'est d'abord, les préoccupations là, de santé que peut-être que tu veux souligner, mais pour transposer aussi vis-à-vis de des enjeux spirituels qu'on n'associe pas toujours. Tantôt, tu as parlé de la dichotomie qui est faite où on sépare corps et esprit, mais si le corps et l'esprit sont liés jusqu'à ce que la mort les sépare, ce qui affecte notre corps va affecter aussi notre esprit. Donc, c'est quoi les enjeux qui sont reliés à la nourriture?
Excellent, c'est super bien que tu le nommes. Là. Je te dirais bien s'alimenter, oui, c'est pour la santé physique, mais il y a un impact direct sur la santé mentale et la santé spirituelle à nouveau. Donc, je pense que si on s'alimente adéquatement, puis qu'on est bien disposé dans son temps de dévotion à Dieu, mais ça va améliorer notre vie de prière, ça va améliorer beaucoup plus que seulement la santé physique. À l'inverse, si on mange mal, on sait que ça peut générer davantage de fatigue, davantage de symptômes dépressifs. On peut se sentir moins motivé à entreprendre nos projets de la vie quotidienne ou encore une fois à prier ou dans notre temps de dévotion. Donc, c'est vraiment très lié. Donc, faut garder en tête que la santé physique passe par une saine alimentation, mais la saine alimentation va aussi grandement influencer la santé mentale des gens. C'est ce que je dirais ici.
Mm-hmm. Oui. Et c'est difficile de tracer la frontière exacte entre qu'est-ce qui appartient au registre de la santé mentale, qu'est-ce qui est spirituel. Le corps impacte l'âme, l'âme impacte le corps. Et comment on les distingue exactement, c'est pas toujours évident. Quand on travaille en santé mentale, Quand je travaillais comme aumônier, ben c'était difficile par moment de savoir là, qu'est-ce qui relevait plus clairement de la santé mentale, qu'est-ce qui vient davantage de la volonté et de la nature pécheresse chez l'être humain. Mais donc, ce qu'on sait concrètement par rapport aux effets sur la santé mentale, sur la dépression, par rapport à l'alimentation, est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, brièvement, je vous dirais, on a des études super intéressantes qui expliquent de quelle manière l'alimentation va impacter le microbiote, donc la flore intestinale. Puis ces études-là récemment montrent que d'avoir une flore intestinale variée, de manger une variété de fruits et légumes, des produits céréaliers, de tout en fait, allait produire un microbiote qui était sain. Puis un microbiote sain va produire davantage de neurotransmetteurs. Donc on parle de sérotonine, de dopamine. Donc il faut vraiment comprendre que ce que l'on mange a un impact direct à l'intérieur de l'organisme. Puis ça va littéralement jouer sur la santé mentale de la personne. Donc si on mange des aliments qui sont très peu nutritifs, des aliments qui sont très transformés, on risque d'en ressentir des effets là, physiologiques, mais aussi des effets psychologiques.
J'ai entendu là qu'on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Est-ce que c'est par rapport à ça, la notion du microbiote?
On pourrait dire que oui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de terminaisons nerveuses là, au niveau des intestins, là, pratiquement autant qu'au niveau du côté du cerveau. Donc, je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle on trace ce lien-là, là, puis qui s'est de plus en plus documenté en termes de science. Ce n'était pas il y a 50 ans, mais on a de plus en plus de données qui expliquent ces choses-là.
D'accord. La dépression, la fatigue, la démotivation va certainement avoir des répercussions spirituelles. Tu parlais donc de la vie de prière. Un autre élément, un lien entre la santé spirituelle et l'alimentation, je pense à un des fruits de l'esprit. Il est dit qu'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Bon, on peut penser à la maîtrise de ses émotions, pas céder à la colère, mais la maîtrise de soi, ça inclut, je pense aussi, de maîtriser nos appétits, nos désirs charnels, que ce soit dans le domaine de la sexualité, mais aussi de l'alimentation. Par rapport à la nourriture ou la boisson, quelqu'un qui manque de maîtrise, quelqu'un qui va consommer trop d'alcool ou trop régulièrement ou qui n'est pas capable de prendre une consommation qui ne mènera pas à une deuxième, à une troisième, et ainsi de suite. C'est pas juste quelque chose de physique, c'est quelque chose qui est relié à la santé spirituelle. C'est un problème de maîtrise, c'est un problème qui est relié à la sanctification. Et donc, tout le domaine de la nourriture, tout le domaine de la consommation, finalement, est un peu un terrain d'exercice pour apprendre à dépendre de Dieu pour satisfaire notre joie. Et la nourriture crée une sorte de dépendance. On peut avoir un rapport très malsain avec la nourriture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment les gens cherchent parfois un peu le réconfort dans la nourriture ou une récompense dans le sucre, par exemple, mais qui est à deux tranchants, va procurer peut-être un bienfait immédiat, mais qui c'est un peu comme la drogue qui finit par laisser plus de séquelles que de bien-être.
Exact. C'est un parallèle avec ce que je viens tout juste de dire, mais les aliments qu'on va ingérer vont libérer une espèce de un sentiment de bien-être qui est souvent associé à la sérotonine, mais en mangeant certains aliments, on se sent bien. C'est le côté positif de manger un aliment qui nous fait sentir bien, des chips, de la crème glacée. Mais d'ingérer ces aliments-là a un effet délétère aussi. On parlait tantôt de trop ingérer de nourriture qui pourrait être grasse ou de trop sucrée, puis on va tomber dans un état amorphe. Un état où on va se sentir beaucoup plus fatigué, beaucoup moins disponible. J'ai moi aussi, par moments, trop mangé. Puis je me rappelle toujours ce sentiment-là où je suis démotivé, où j'ai moins de clarté au niveau intellectuel. Puis à ce moment-là, prier ou la dévotion à Dieu est beaucoup plus difficile. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange, définitivement.
on a vu sur l'image de ce livre-là, le beau beignet ça attire pas tout le monde, mais il y en a certainement que c'est presque irrésistible. Un beignet, des sucreries, d'autres, bon, c'est davantage les choses salées ou grasses, les produits laitiers. La malbouffe, qu'est-ce qu'on sait sur la malbouffe? Peux-tu nous en parler un petit peu de ce volet?
Définitivement. On sait qu'elle est partout. Je suis allé voir des statistiques de l'INSPQ récemment, puis ou même la Fondation des maladies du cœur. Puis on voit qu'on mange plus de 50% de nos aliments sont transformés ou ultra-transformés. C'est 2 fois plus qu'il y a 70 ans. Donc on voit qu'on mange de moins en moins bien. Puis ça a un impact, la malbouffe, sur notre santé physique et mentale à nouveau. Donc ça peut augmenter le risque de souffrir d'obésité, d'hypertension artérielle, de diabète, les symptômes dépressifs, les différents cancers. Donc, faut faire très attention. Puis, c'est assez subtil des fois qu'on parle de malbouffe ou d'aliments transformés. Puis, on se dit, bah, je dois pas en manger trop. Mais si par exemple, je vous dis des céréales, des bonbons, des boissons gazeuses, du chocolat, de la crème glacée, des pizzas, de la nourriture en canne, ce sont tous des aliments ultra transformés. Puis, il faudrait grandement s'en éloigner. Il faudrait manger davantage d'aliments qu'on achète à l'état naturel puis qu'on cuisine nous-mêmes. Je pense que c'est la clé là, pour manger moins d'aliments ultra transformés.
À quoi ça peut ressembler une diète saine? On parle manger bien, mais concrètement, il existe là, bon, toutes sortes de régimes. Je ne sais pas comment tu voudrais répondre à la question en nous présentant tel ou tel régime ou comment on peut être certain qu'on a une alimentation qui est saine. Parce que ça peut être assez subjectif ou relatif, là, ce qui va être sain selon les critères de ma femme, par exemple, versus ceux de ma mère, pour prendre deux femmes importantes dans ma vie, j'aurais pas la même alimentation. À quoi ça ressemble une saine diète?
Je pense que ça prend un consensus scientifique. Je pense qu'on est capable de faire des études et de regarder qu'est-ce qui, à long terme, semble réellement fonctionner. Je tiens à nommer que j'ai aucun conflit d'intérêt. Je parle vraiment en mon nom. Puis c'est pas une prescription ou une ordonnance. Je fais juste des suggestions à nos auditeurs. Mais je vous dirais le guide alimentaire canadien est assez intéressant à ce niveau-là.
Le
Les
nouveau
directives ont
guide, tu veux
grandement.
dire, hein?
Exactement, exactement. Fait que les directives ont grandement changé. Donc avant 2019, on séparait l'assiette en quatre. Donc, on parlait de viande et substituts d'un côté, les produits laitiers d'un autre quart, les produits céréaliers et les fruits et légumes. Ça a grandement changé. Donc, je pense que le lobbying était très fort puis qu'il y avait un lien entre l'industrie alimentaire et les différentes politiques qui étaient adoptées. Il y a eu un retournement de situation en 2019 où on s'est basé sur de nouvelles études, beaucoup, beaucoup de données probantes, puis on a décidé de changer ça. Puis je vous dirais qu'en ce moment, une assiette santé, c'est 50% des fruits et légumes, un quart de l'assiette qui devrait être des protéines, puis on encourage à manger davantage de protéines végétales et moins de protéines animales. Puis l'autre quart de l'assiette, ce serait des produits céréaliers. Donc ça ressemble, là, je te dirais, en gros, à ce qui est suggéré. Puis c'est répercuté, là, en fait, je vous dirais, il y a d'autres études qui semblent montrer les mêmes choses. Il y a deux très grandes cohortes que j'aime suivre, deux études qui sont des études observationnelles. On parle d'une cohorte qui a débuté en 2002. C'est une étude qui s'appelle Adventist Health Study. C'est 96 000 Nord-Américains qu'on suit. Puis, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'on a un baseline. On sait que ces gens-là fument très peu ou pas du tout, consomment pas d'alcool, ils ont tous un mode de vie relativement similaire. Puis ce qui différencie les différents groupes, c'est l'alimentation. Donc, on a un groupe qui est végétalien, un groupe qui est végétarien. On a des semi-végétariens, puis des gens qui mangent de la viande. Puis on regarde l'incidence de différentes maladies. Puis on est capable d'établir, bon, certains liens entre ce qui est mangé, puis l'impact sur la santé. Puis, j'ai des petites statistiques là, que j'avais pris le temps de regarder, mais dans cette même étude-là, on voyait que le risque de souffrir d'hypertension artérielle était diminué de 75% entre les gens qui sont végétaliens et les gens qui mangent de la viande sur une base plus régulière. puis qui était diminué de 55% chez les végétariens, donc ceux qui mangent produits laitiers, un peu de poisson et tout. Même chose pour le diabète. Donc, on voyait que le risque de souffrir de diabète était de plus bas de 62% chez les végétaliens et par rapport à ceux qui mangeaient de la viande et de 38% chez les végétariens. Donc, on voit qu'un régime qui contient moins de protéines animales tend à diminuer l'incidence de certaines maladies chroniques qu'on connaît, dont beaucoup de gens, nos proches, sont atteints, là. Donc, l'idée ici, c'est pas de dire de ne jamais manger de viande. L'idée, c'est de se dire peut-être qu'on pourrait réduire nos portions ou réduire la fréquence parce qu'on sait qu'il y a un lien entre la consommation de viande et les problèmes, de santé, là, physique.
J'ai fait un petit voyage au Texas l'automne dernier et puis j'en pouvais plus là, de manger de la viande. Il y en avait à chaque repas. Je partageais avec les frères qui étaient là. Je dis, nous, on mange pas de la viande forcément à tous les jours. Et ils me disaient, nous, il n'y a pas un repas où il n'y a pas de viande.
Exact.
Donc, ouais, c'est ça. Mais il y a même une diète où ce n'est que de la viande. Je ne sais plus comment on l'appelle, ça, là, le régime carnivore, c'est ça?
Carnivore, ouais, carnivore.
Ouais, c'est ça. Et j'imagine qu'il ne se qualifie pas dans tes diètes saines que tu recommandes.
Non, du tout. Puis je pense pas que ce serait viable de tolérer un régime carnivore pendant des années. Je me demande comment les gens font pour faire ça, des fois juste une semaine. Je peux pas imaginer une étude à long terme sur 5, 10 ou 20 ans de régime carnivore. C'est pas quelque chose qui a jamais été fait, là.
Mais c'est pas des diètes transitoires ou temporaires pour des raisons, je sais pas, comme une espèce de traitement choc à la viande, là. Ben, je sais pas, je pense que Jordan Peterson, il a été affecté là, d'une dépression sévère et puis il avait fait cette diète-là, je pense, dans ce cadre-là. Mais les informations que j'ai là sont approximatives. Ça te dit quelque chose?
Ouais, mais il n'y a rien de fondé scientifiquement. Je sais qu'il y a des gens qui vont réagir, vont avoir des intolérances ou des allergies alimentaires avec le gluten ou les produits laitiers. Fait que c'est sûr que si tu retires tous les allergènes d'un coup puis tu manges juste de la viande, ça se peut que tu te sentes bien temporairement. Mais l'impact de manger des quantités astronomiques de gras saturé de cholestérol sur les artères, je l'encourage pas pour ces raisons-là.
Est-ce que tu peux nous redécrire l'assiette là dans les portions, comment on la divise?
Définitivement. Donc, l'assiette santé, selon le Guide alimentaire canadien, c'est 50% de l'assiette des légumes ou des fruits. Donc, c'est beaucoup de fibres. Un quart de l'assiette, ce sont les protéines, mais on va demander à manger un petit peu plus de légumineuses, un petit peu plus de noix. On met pas de côté là, le poisson ou les œufs ou quoi que ce soit, même la viande, mais on essaie de dire aux gens, mangez davantage de protéines végétales. Puis, le quart de l'assiette, le dernier quart, c'est les produits céréaliers. Donc, tout ce qui est quinoa, riz, pommes de terre, du pain. Donc,
Ah ben, nous autres, on pète le feu, on est en très bonne santé.
On est dans la même équipe.
Au niveau de la consommation de l'alcool, parce que ça aussi, ça a un impact, j'annonce que j'aimerais faire une émission sur la consommation de l'alcool, sur l'alcoolisme. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un mot, là? Ça aussi, je pense que ça a changé récemment dans les recommandations de santé. Au niveau de l'alcool.
Brièvement, je ne m'y connais pas beaucoup. Je sais qu'on recommandait, là, je pense que c'était 2 à 3 consommations pour les hommes, puis 1 ou 2 consommations pour les femmes quotidiennement. Mais les dernières études semblent montrer que ne pas consommer d'alcool serait toujours l'idéal. Donc, on ne dit pas aux gens de ne pas en consommer jamais, mais je vous dirais, c'est plus dans les recommandations de dire on peut boire 2 à 3 consommations d'alcool par jour. On reconnaît que peu importe la quantité d'alcool consommée, il y a un effet délétère. Des fois, il est très petit, mais on encourage les gens à ne pas en boire. Puis s'ils veulent boire une bière ou 2 par semaine, il n'y a pas de problème.
Ben, pourtant, c'est un remède biblique, Paul dit à Timothée pour son estomac. Je pense aussi que c'était dû au fait que l'eau n'était pas toujours potable. Alors, de prendre quelque chose de fermenté, c'était
Plus
recommandé.
sûr.
Mais bon, on m'a dit aussi qu'un verre de vin, c'était bon pour la santé et deux, c'était bon pour le moral.
Exact.
Mais bon, j'attendrai d'en parler dans l'émission sur l'alcoolisme. Bon, ben, on a parlé beaucoup de ce qu'on mange, mais une diète saine, je pense aussi, devrait inclure l'abstinence parfois de nourriture. Et j'aimerais qu'on puisse parler du jeûne, dans un premier temps, pourquoi on devrait jeûner, à quoi ça sert et comment on devrait jeûner. Et dans le pourquoi, quand on envisage le jeûne, quand les gens me demandent pourquoi jeûner ou on discute du jeûne, souvent il y a comme deux préoccupations qui accompagnent le jeûne. C'est le jeûne pour des raisons physiques et le jeûne pour des raisons spirituelles. C'est pas une pratique qui est prédominante chez les protestants. Les catholiques ont le carême, les musulmans ont comment ils s'appellent leur jeûne, le ramadan, les réformés, ben nous on mange et on boit. Mais c'est surtout sur une base personnelle, individuelle, où on ne doit pas en parler, mais il n'y a pas une espèce de pratique de jeûne collectif. Ça s'est un peu perdu avec le temps. Je pense que peut-être, d'une part, on voulait combattre une forme de piétisme ascétique où on gagne notre ciel par le jeûne, où on tord le bras à Dieu dans nos prières parce que là, on jeûne, puis notre prière va être plus puissante. Et puis, il y a comme un peu une résistance, avec raison, à cette mauvaise théologie. On s'appauvrit, je pense, si on perd complètement la pratique du jeûne. D'abord, pourquoi est-ce qu'on devrait pratiquer le jeûne? Je ne sais pas si tu veux parler d'abord sur le plan spirituel ou physique. Je te laisse aborder dans l'ordre qui te convient.
Oui, ben, je pense que c'est clair dans la Bible. Je dirais qu'il y a des bienfaits spirituels à jeûner. Avant tout, l'augmenter sa piété, puis de se rappeler que la nourriture la plus importante, c'est la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle avant même la nourriture physique. Donc, je sais que dans la Bible, souvent qu'on a des décisions importantes à prendre ou on a des demandes pressantes, il y a l'exemple du jeûne qui va être amené. On le voit un petit peu partout. Je sais qu'on le voit en Matthieu 4, quand Jésus s'en va dans le désert, puis il va jeûner 40 jours, 40 nuits. Il y a plusieurs autres passages là, où on parle du jeûne. Mais de se rappeler que à quel point on a besoin, puis à quel point on dépend de la grâce de Dieu, puis le jeûne nous apporte ça aussi. Donc, c'est crucial de jeûner là, pour le chrétien.
Mm-hmm. Oui, il y a différents contextes, je pense, ou raisons que l'Écriture nous donne pour jeûner, par moments pour s'humilier devant Dieu, et qu'on pense là, à un moment ponctuel. On voit David, par exemple, qui après avoir péché, lorsqu'il est repris, accompagne sa repentance du jeûne. Et c'est une pratique, je pense, quand le Seigneur nous reprend, nous corrige, où on devrait porter des fruits de la repentance, où on prend le sac et la cendre, on a réduit beaucoup notre contrition à un niveau verbal. Je pense que c'est bien, il faut confesser nos péchés, mais il y a une place, à mon avis, pour humilier notre corps, humilier notre esprit, pour embrasser la tristesse qui vient aussi avec le jeûne, avec cette privation, parce qu'on se dit, c'est pas l'heure que mon âme se réjouisse, c'est l'heure que mon âme s'humilie. Ça vient avec une forme de deuil aussi, c'est pas toujours la repentance pour un péché qu'on fait, mais on peut pleurer, par exemple, sur l'âme d'un de nos enfants ou d'un proche. Et on ne veut pas devenir indifférent. L'Écriture nous met en garde sur un des effets du confort et du manger et du boire, c'est que ça appesantit nos cœurs. Hein, c'est une façon de dire que ça les engourdit, ça les rend un peu indifférents. Et puis, on peut devenir vite un peu, quand on est toujours dans ce confort nord-américain où on manque jamais de rien, où on mange toujours à satiété, où on boit un peu trop, on réjouit notre cœur avec l'alcool, qu'on devienne engourdi spirituellement, où on n'a plus trop compassion des âmes perdues, on est froid face à toutes ces questions-là. Et je pense que le jeûne nous aide justement à garder cette acuité spirituelle, ce feu du premier amour, de ne pas prendre à la légère, par exemple, la perdition des gens qu'on aime, qui sont autour de nous, qui ne sont pas au Seigneur, et de juste dire « bon, ben, je mange, je bois », et puis avec une sorte d'indifférence, mais de s'humilier pour prier avec cette ardeur, cette intensité qui plaît au Seigneur, parce qu'il exauce Aussi, la prière qui est fervente, une prière qui est faite du bout des lèvres, où le cœur n'y est pas, c'est similaire à une foi morte, une foi qui ne porte pas le fruit que Dieu attend. Alors, il nous demande d'utiliser le jeûne pour garder cet éveil, cette disposition, ce sérieux face à lui. Un peu plus tôt, je parlais de la maîtrise aussi, comme fruit de l'esprit, ben, une bonne façon d'entretenir la maîtrise, ben, c'est une privation qui peut être complète, qui peut être momentanée. On pourra en parler dans le comment on pratique le jeûne, mais ce sont certainement des bénédictions spirituelles qui viennent avec. Mais une des choses qu'on constate, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui t'ont venu à l'esprit par rapport à l'aspect spirituel du jeûne?
Non, mais je me rappelle qu'il y a un passage, dans le fond, juste en Matthieu 6, 17, mais Christ s'adresse à nous, puis il nous dit « Mais quand tu jeûnes? » Puis ouais. Moi, j'ai comme ouvert les yeux, puis j'ai réalisé « Mais c'est pas si tu jeûnes, c'est quand tu jeûnes. » Donc, ça implique que nous devrions le faire sur une base régulière. Puis c'était comme un rappel à moi-même qui ne jeûne pas tellement, à part le jeûne intermittent, mais j'en aurais besoin davantage.
Mm-hmm. Oui, que ça fait partie, c'est comme acquis, ça ne devrait pas surprendre et que c'est plutôt anormal de pas jeûner. Y aurait certainement d'autres choses à dire. Je pense que c'est une façon d'entretenir notre vie de prière. Y a Athanase qui dit des choses intéressantes sur le jeûne par rapport aussi même à la guérison physique. Et ça, c'est un des éléments qui... comme un peu en vogue, là, où on veut, dans le monde, même en dehors du monde chrétien, et beaucoup en dehors du monde chrétien, on redécouvre les bienfaits du jeûne pour le corps et pour la santé mentale. Et bon, peut-être certains, là, on le voit un peu comme une panacée, là, on va guérir tout par le jeûne, on guérit les cancers par le jeûne, faites plus de chimiothérapie, jeûnez, puis votre corps va s'auto-guérir. C'est pas ce qu'on veut recommander aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on sait sur les bienfaits physiques et psychiques du jeûne?
Oui, je te dirais... Il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais les données probantes, ça va dans toutes les directions, donc c'est difficile à savoir si c'est réel ou non. Fait qu'il faut vraiment, ça prendrait plus de méta-analyse pour savoir là, vraiment là, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On sait que la perte de poids fonctionne bien avec le jeûne intermittent. On sait que ça permet de réduire l'inflammation dans l'organisme. Tu parlais de guérir des cancers, mais en réalité, si on jeûne d'une façon qui est optimale et qu'on réduit l'inflammation dans l'organisme, on pourrait justement être en mesure de réduire le risque de certains cancers, réduire le risque de démence, réduire le risque de problèmes cardiovasculaires. Donc, ça reste des choses intéressantes à étudier puis à tenter quand on est arrivé là à un point de rupture où le corps va moins bien. C'est mm-hmm. quelque chose que personnellement, j'essaierais de tenter.
Donc, quand tu parles d'inflammation, là, c'est quel genre de problème inflammatoire?
Si on prend juste l'exemple des problèmes... comment je peux dire, cardiovasculaire, il y a une espèce de stress oxydatif qui s'installe avec la consommation régulière de gras saturés, d'aliments qui sont très sucrés, puis c'est l'organisme en fait qui répond à ça. Il y a des littéralement l'arthrose ou l'arthrite qui sont des maladies inflammatoires qui peuvent justement là, diminuer en intensité et en symptômes quand on jeûne. Donc, c'est vraiment le corps qui réagit aux aliments, puis c'est une réaction physiologique. Il y a littéralement des molécules qui circulent au niveau intravasculaire dans le sang qui font en sorte que le corps réagit très fort. Donc, c'est ce qu'on essaie de diminuer quand on jeûne.
D'accord. Au niveau de la santé mentale, ce qu'on voit, y a certaines problématiques, je pense, de santé mentale qui sont reliées justement à des maladies inflammatoires. Je ne sais pas si ça, c'est démontré par des études, là, mais...
Je dirais personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai étudié. Je me suis intéressé beaucoup, beaucoup au cancer et aux maladies cardiovasculaires, mais l'impact du jeûne sur la santé mentale, je pourrais pas me prononcer dans cette situation.
Ben, j'ai entendu surtout des témoignages, c'est plus anecdotique là, que des recherches scientifiques, mais de gens qui ont été guéris de dépression chronique ou sévère, entre autres par des jeûnes intermittents. Beaucoup plus efficacement que par des antidépresseurs ou de la médication. C'est ça. Donc, j'ai pas de non plus là, d'études, mais j'ai entendu plusieurs témoignages dans ce style-là et quelqu'un d'assez proche de moi aussi, là, où c'est pas spécifiquement le jeûne, mais c'est l'alimentation. Une alimentation saine a changé beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Comment maintenant est-ce qu'on doit jeûner? Peut-être une des raisons pourquoi plusieurs le font pas, c'est parce qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre ça. Ça fait peur aussi un peu. Quand on a un peu le creux dans l'estomac, on a l'impression qu'on est plus fonctionnel. Comment est-ce qu'on devrait pratiquer le jeûne? Quels sont les différents types de jeûne?
Écoute, j'y vais avec les jeûnes selon la Bible. ça nous parle de jeûnes complets, donc des jeûnes qui sont sans eau et sans nourriture. On le voit en Deutéronome 9:9 quand Moïse y reçoit les 10 commandements. C'est pas un jeûne que je recommande à qui que ce soit, un jeûne complet où on ne consomme pas de liquide. Ça peut être problématique, là, même dangereux pour la santé après 48-72 heures. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande.
C'est des jeûnes plus courts, je pense, habituellement, si on fait un jeûne sec complet plutôt qu'un jeûne prolongé. Là.
Exactement. Je te dirais 16 à 24 heures. Beaucoup de gens tolèrent bien, mais encore une fois, n'importe qui serait médicamenté, qui souffrirait de problèmes de santé, il faut toujours s'adresser à un pharmacien ou à un médecin avant de se lancer dans un jeûne. Je ne ferais pas ça toute seule par moi-même si ma santé était précaire. Après le jeûne complet, je sais qu'il y a le jeûne hydrique, donc on se prive de nourriture, mais on peut boire de l'eau, des liquides. Puis il y a le jeûne partiel. On le voit aussi dans la Bible où on s'abstient de manger certains aliments, mais on en mange d'autres. Donc, c'est les trois types de jeûne là, auxquels je pense quand je pense au jeûne bibliquement parlant.
Le deuxième, tu l'as appelé le jeûne hydrique?
Hydrique. Le fait de boire. Okay. Hydrique,
oui. D'accord, juste boire. Et puis, si on fait un jeûne, sélectif, je m'abstiens pas de manger, mais je veux manger que des fruits ou je décide de jeûner le dessert. Est-ce qu'on peut considérer que c'est dans la catégorie, c'est peut-être pas le jeûne, mais c'est une forme d'abstinence?
Mmh. Oui, c'est une forme de jeûne partiel, puis je pense que c'est excellent de le faire par moment. Littéralement, là, je mange de tout aujourd'hui, mais de se priver, là... De manger un dessert, comme tu as dit, ou de manger des chips, ou de manger littéralement de la viande pendant un nombre de jours X, ben on pourrait en avoir d'excellents bienfaits. Donc oui, c'est quelque chose qui se fait, là, puis c'est même populaire des fois de dire je vais faire un régime où je mange que des fruits, que des légumes pendant quelques jours, puis ça, c'est comme un petit peu une purge aussi pour l'organisme.
Ouais. Il y a le défi 28 jours, je sais pas si c'est... C'est ailleurs là, qu'au Québec, ça se fait en Europe. On a beaucoup de gens qui nous écoutent d'Europe, qui est bien populaire ici, là, d'abstinence d'alcool pour 4 semaines consécutives. Et donc, le souvent, c'est le mois de février, là, alors comme il y a 4 semaines. Et c'est une forme voilà, de jeûne, d'exercice de contrôle sur nos désirs du corps. Une des choses que j'aimerais dire, quand on jeûne, au début, on est surpris par la faim, hein, l'effet de vide et qu'on doit manger, qu'on se sent un peu affaibli. Ce sentiment-là passe assez vite. Ça va durer une heure ou deux et puis ensuite, on arrive à continuer et puis on ressent moins la faim, ça va revenir un peu plus tard, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va être comme en état de faiblesse et de comme si on va délirer ou on va être affaibli complètement. Je présume que pour des gens c'est peut-être différent, je parle à partir de ma propre expérience. Je me rends compte aussi que en buvant beaucoup d'eau, ça donne beaucoup plus faim que les jeûnes secs. Ils ont l'air plus durs, mais ils sont plus faciles au niveau si on les fait sur une courte période. Là, je parle si on jeûne, par exemple, juste une quinzaine, vingtaine d'heures. C'est plus facile un jeûne sec, je trouve, qu'un jeûne hydrique parce que l'eau ouvre l'appétit. Mais un des bienfaits que je constate pour moi, c'est cette capacité à rester plus alerte, plus concentré, pas avoir cette... et parfois, c'est pas juste de jeûner, mais de réduire. Moi, j'aime bien, dans ma diète, si je fais pas un jeûne intermittent, d'une façon régulière, fonctionnelle, prendre un bon déjeuner, pas trop tôt le matin, vers 9h peut-être, en avant-midi, pour être capable de me rendre jusqu'au souper, en prenant rien, peut-être juste un fruit un peu plus tard dans l'après-midi. J'ai pas de fatigue qui vient, surtout que comme mon travail, c'est beaucoup un travail intellectuel, de lecture, comme c'est moins physique, j'ai peut-être moins besoin d'apport calorique au niveau physique. Souvent, en mangeant trop, à l'époque, j'avais tendance à avoir ces endormitoires, comme on dit, ces coups de barre, comme disent les Français, la fatigue, plus de difficultés à me concentrer. J'ai l'impression que mon esprit est beaucoup plus alerte en diminuant la quantité de nourriture.
Et c'est le cas. Et c'est un des effets que j'allais rechercher beaucoup à l'université quand j'étudiais le jeûne intermittent, la clarté intellectuelle, le fait d'être capable de me concentrer. J'ai l'impression qu'au niveau de mes études, il y avait une profondeur. Dans mes lectures, mon temps spirituel, même chose. Il y a une profondeur quand tu n'es pas en train de digérer une panoplie de calories que tu viens d'ingérer. Particulièrement si tu viens de manger un repas copieux qui était très gras, très riche en protéines. Donc, le jeûne permet ça, oui, au niveau de la clarté, là, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi personnellement.
Est-ce que tu es au courant si, au niveau de l'alimentation, dans les différentes cultures, dans l'histoire et dans le monde, j'ai l'impression qu'on est en Amérique du Nord ou en Occident, une des rares cultures dans l'histoire, d'un point de vue de l'histoire, même si c'est répandu pas mal à l'échelle de la planète, qui ne jeûne pas. Où ça ne fait pas partie des habitudes alimentaires de vie et que y a comme une... En fait, tous nos problèmes, pas tous, mais un bon nombre de nos problèmes ne viennent pas d'une carence, mais d'une surabondance, où on consomme trop, le corps s'épuise, et la santé mentale s'épuise, le stress, et y a quelque chose de mauvais. Est-ce que tu as... ce que je dis là, c'est
fondé.
C'est fondé. D'accord.
Oui, on le voit, je te dirais, dans l'Est, au niveau de l'Est européen, l'Asie, tout ce qui est l'Inde, c'est dans leur culture aussi un petit peu plus là, de manger deux repas par jour, de les espacer, puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt là, avec la malbouffe, mais la malbouffe fait en sorte que tu as tout le temps dans ta circulation intravasculaire des nutriments qui sont là, puis des déchets métaboliques qui sont générés par l'ingestion de certains aliments. Ce qu'on mange contient des choses qui sont essentielles, mais il y a aussi des choses qui sont pas toujours très bonnes. Donc, le fait de jeûner, de ne pas manger, ça crée une espèce d'homéostasie, un équilibre au corps. Puis ce serait très bon pour la santé là, de jeûner de cette façon-là, justement. Tu as parlé qu'on mange trop. L'Amérique du Nord, je te dirais, on mange en quantité de calories, beaucoup trop de calories, mais il y a une déficience au niveau de la valeur nutritive. Fait que c'est comme un paradoxe, on mange beaucoup trop de calories, des calories vides, mais on mange très peu d'éléments nutritifs, des minéraux, des vitamines, ce qu'il y a d'essentiel, là, parce que on mange, comme on a dit tantôt, tellement de produits transformés.
Ouais, c'est ça. Donc, on mange trop, mais finalement, notre alimentation, elle est pauvre.
Exact.
Donc, on est mal nourri. écoute, c'est très intéressant, très utile de réfléchir à tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu aimerais ajouter avant de clore notre émission?
Je pensais peut-être de spécifier, de nommer les différents types de jeûnes qui sont populaires et qui se font relativement bien. Je sais que le jeûne intermittent est de plus en plus connu. Jeûne où on essaye entre le dernier repas de la journée puis le lendemain d'avoir là un minimum 12 heures, on vise plus un 14 à 16 heures, donc de manger nos calories là, sur un laps de temps qui est de 6 à 8 heures, donc tout ce temps-là qu'on est en jeûne, mais c'est bon pour l'organisme. Le type de jeûne où on mange un repas par 24 heures, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent aussi, Donc, c'est une autre façon de jeûner. Puis, on a des jeûnes un petit peu plus longs après ça, de 36-48 heures ou des jeûnes de 3 jours. Mais plus le jeûne augmente en durée de temps, généralement, moins on le pratique fréquemment parce que ce serait dur de jeûner 3 jours par semaine à toutes les semaines. À un moment donné, le corps, là, il manque en nutriments essentiels, là, comme on vient de nommer. Donc,
Une des autres choses par rapport à l'alimentation, moi je me rendais compte que ma consommation de café, si j'en prenais à tous les jours, ben, je développe une sorte de dépendance ou si je peux pas avoir de café rendu dans l'après-midi, je vais avoir des maux de tête. Alors j'ai décidé d'avoir 2 jours par semaine où je n'en prends pas pour éviter de développer la dépendance. Ça marche bien ces jours-là où j'en prends pas, j'ai pas de maux de tête. Donc, quand je fais le jeûne intermittent et que c'est pas une des journées où je m'abstiens de café, je prends quand même un bon espresso le matin. Est-ce que ça compte comme est-ce que je scrape mon jeûne finalement?
Non, c'est ça. Si c'est 100 calories, on ne scrape pas en guillemets le jeûne. Donc, quelqu'un qui boirait un thé vert, un café noir ou de l'eau à profusion dans une journée de jeûne, tu ne coupes pas le jeûne.
Voilà. Il faut pas mettre pas de crème, pas de sucre, puis pas de lait, rien. De toute façon, moi, j'aime ça noir, bien serré, un peu allongé quand même là, mais un bon espresso.
Bien
Ah, mais tu me
corsé pour que ça
rassures.
goûte le café.
Voilà, exactement.
J'ai mangé trop de patates frites. J'ai vu le fond du cornet. Tout est arrivé si vite. Et maintenant j'ai des regrets. Quand mon corps m'envoie des signes, je ne l'écoute jamais. La peau comme un élastique, un grand écart de l'abdomen. J'ai mangé trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop, 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 trop de patates frites. J'aimerais que l'on m'explique.
Ben écoute, changement de propos, mais pas trop, mon cher Maxime. Tu viens-tu souper?
Je viens souper.
Ben écoute, on t'a préparé un pain aux lentilles. On dirait qu'on a fait exprès. Ma femme a dit, on reçoit Maxime ce soir. Qu'est-ce que je peux préparer? On n'était pas pour te faire un roast beef ou faire de la pizza. Alors, un pain aux lentilles. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va goûter. Je ne sais pas s'il y aura un dessert. Je pense qu'elle avait mandaté un des enfants pour préparer un dessert. Mais ça va nous faire plaisir de partager ce repas avec toi, mon cher frère. Et
Super,
vas-y.
j'ai hâte de goûter à tout ça, oui.
Ben, moi aussi, et puis surtout de le manger en bonne compagnie, parce que ça aussi, c'est important. La joie autour de la table, mieux vaut un pain sec et de l'eau là où il y a de la querelle que pas non, pardon, mieux vaut une maison avec un pain sec et de l'eau où il y a de la joie et de l'amour qu'un bœuf engraissé où il y a de la querelle, quelque chose comme ça, là, c'est dans les proverbes. Mais en tout cas, la semaine prochaine. Je regarde mon calendrier. Je devrais recevoir Paul Sanders pour parler de la Sainte-Seine. On va parler de son livre Quand la réforme entre en scène. J'ai bien aimé le jeu de mots, la réforme qui entre en scène, la scène historique, mais l'enjeu historique de la Sainte-Seine. Et puis, ben, ça va donner dans le temps de Pâques pour réfléchir justement à l'œuvre accomplie par Christ et comment est-ce qu'on communie avec lui les débats intra-réformés. Voilà, c'est la semaine prochaine pour discuter de ce sujet-là. Bien, merci encore à Maxime d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui.
Merci,
Merci,
Pascal.
ça fait grand plaisir et puis j'espère que tu pourras revenir. On parlera du conditionnement physique la prochaine fois, comment faire un bon entraînement musculaire et tout. Et puis, ben, à vous, chers auditeurs, c'est pas le bon, je me suis trompé de piton. La semaine prochaine, j'ai déjà dit, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, j'ai tout dit. Merci d'être fidèle au poste et puis que Dieu vous bénisse. un peu t'es muté. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, moi. Je t'entends saper.
Je t'entends très bien. Écoute, j'avais pas dîné, mais je suis en train de faire ça à l'instant.
Ben, mange pas trop, là, si t'en viens chez nous après.
Écoute, c'est trop beau l'énergie que ma mère a faite. C'est même pas un... J'ai comme déjeuné tard, pas dîné, puis là, je prends un petit quelque chose.
Good, good.
Tu étais au Jimmix avec les enfants, ouais.
Ouais, c'est ça, j'arrive de là, là.
C'est... Je sais pas s'il y a quelque chose dans les dents. Il y a plein de graines de chia que maman a mis dans...
Ah, ouais,
c'est... On va essayer de pas trop sourire. Ça va être difficile.
Le choix entre avoir l'air bête ou avoir un sourire dégueu.
Ben, donne-moi réellement 4 secondes, je vais aller enlever 3-4 graines que j'ai, je reviens.
Lui, il sait pas que ça va se ramasser dans le bêtisier, on dirait. Regarde, il va me pardonner. OK. Je viens de recevoir la notification que mon nouveau moniteur, ben j'avais des trucs comme ça, là, que tu intra-auriculaire, puis là, il était défectueux. Fait que j'en ai acheté des nouveaux. Ils viennent d'arriver. Je suis tellement heureux parce que ça me fait mal aux oreilles. Je cours les chercher, puis je reviens.
C'est bon. Ah, c'est bon.
Vive Amazon!
Yes! Ils font un bel job.
Oh, c'est-tu le fun, ça? Ben, quand tu fais 3-4 émissions dans ta journée, là, les gros headphones, je finis, j'ai mal aux oreilles.
Là. Ouais, non, puis honnêtement, ça te va bien. J'aime bien ce que tu as acheté. Hein.
Ça va être super. J'ai trouvé comme toune de transition la toune parfaite. J'ai mangé trop de patates frites de Blue Jeans Bleu. T'en connais?
C'est bon. Non, je l'ai jamais entendu, mais Blue Jeans Bleu, je connais bien avec le coton ouaté.
Oui, oui, c'est ça. J'ai mangé trop de patates avec ces airs bien roulés. Là.